Bonjour, bonsoir. C'est dans une salle de physique au quatrième étage du Collège des Saussures que nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Michele Maggiori. Lana, Antonin, Noé et James, des élèves de troisième année, option physique, auront la joie et l'honneur de lui poser quelques questions. Michele Maggiori est professeur ordinaire au département de physique théorique de l'Université de Genève. Il cherche des ondes gravitationnelles partout. Il est membre de l'Einstein Telescope, qui est une infrastructure souterraine qui arbitrera un observatoire d'ondes gravitationnelles. Il est membre de la collaboration LISA, pour Laser Interferometer Space Antenna, qui est une future mission spatiale de l'Agence spatiale européenne, dont l'objectif est de détecter des ondes gravitationnelles de basse fréquence depuis l'espace. Ce sera le tout premier observatoire spatial d'ondes gravitationnelles. Michele Maggiori est un expert en cosmologie, en ondes gravitationnelles, énergie sombre et en physique des trous noirs notamment. Il est l'auteur de plusieurs livres sur les ondes gravitationnelles et sur la théorie quantique des champs. Michele Maggiori, un des sujets sur lesquels vous travaillez depuis des années, a vécu un épisode glorieux en septembre 2016, lorsque grâce au détecteur de l'observatoire LIGO, pour Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, aux États-Unis, on a pu annoncer la première détection d'ondes gravitationnelles. Cette découverte du siècle, comme on l'a nommée, ouvrait une nouvelle ère en astrophysique. Donc pour commencer, nous souhaiterions vous poser la question, qu'est-ce qu'une onde gravitationnelle ?
Alors, merci d'abord pour cette belle introduction. Alors, une onde gravitationnelle, on peut parler par analogie, parce que tout ce que je vais dire a une formulation mathématique très précise qu'on enseigne à l'université, mais évidemment aujourd'hui on va parler surtout par analogie. Vous savez tous qu'est-ce que c'est une onde sur l'homme, il y a un millier qui oscille in qualche maniera. Un pas conceptuel qui était franchi, disons, fin 19e siècle, c'était qu'il y a des ondes, qui sont les ondes électromagnétiques, qui n'ont pas besoin d'un millier pour se propager. Ils se propagent dans le vide. Toute notre technologie est basée évidemment sur les ondes électromagnétiques. Là déjà c'était un saut conceptuel. Les gens au début n'arrivaient pas à comprendre comment c'est possible qu'une onde propage dans le vide. Ils s'étaient inventés un millier qu'ils avaient appelé éther, mais on s'est rendu compte finalement que ça n'existait pas. Finalement c'était surtout Einstein qui, avec la relatività, qui a fait comprendre plein de choses dans ce sujet. Allora, le ondes gravitationnelles sont encore un pas de plus d'abstraction conceptuelle. Parce que d'abord, il faut parler un peu d'espace-temps. Donc, pour notre expérience quotidienne, l'espace, le temps, ce n'est pas quelque chose de très intéressant. C'est le cadre où les choses intéressantes se passent. Vous dessinez un système d'axes cartésiennes, un tableau noir, ce n'est pas les axes cartésiennes la chose la plus excitante en soi. Donc, vous avez des façons de mesurer le temps, l'espace, mais l'espace et le temps, c'est quelque chose d'immuable. Et par contre, autour de 1900, c'est un long processus, arrive Einstein qui bouscule totalement cette vision et l'espace-temps devient quelque chose de dynamique. Et toujours pour parler en termes d'analogie, vous pouvez imaginer un tapis élastique. En deux dimensions, parce que j'ai besoin d'une troisième dimension pour imaginer que ça, le tapis qui s'enfonce. Alors, vous imaginez déposer le soleil sur ce tapis, une pierre, une masse, le tapis s'enfonce. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi, par exemple, la Lune tourne autour du soleil. Dans la vision de Newton, c'est une vision mécanique de force. Il y a la Lune qui tourne autour, la vitesse dans cette direction. Il y a le soleil qui esercita una forza, vous pouvez imaginer une ficelle e la fait tourner en ronde. Dans la vision d'Einstein, tout cela change. C'est l'espace-temps qui est déformé et la Lune va dans une ligne droite, mais la notion de ligne droite dans ces espaces déformés, c'est devenu un cercle, parce que vous avez enfoncé le tapis et donc elle croit dans la ligne droite. Mais... Alors, d'abord, il y a cette notion très belle d'espace-temps con quelque chose de dynamique, les objets peuvent déformer l'espace-temps et les mouvements de la matière, de la Lune, des objets dans ces espaces-temps déformés dépendent de comment ils étaient déformés. Dès que vous arrivez à cette vision, ensuite on peut se demander mais qu'est-ce qui se passe si je fais vibrer les tapis? Je commence à les taper et sur les tapis il y aura des vibrations. c'est ça les ondes gravitationnelles. Des minuscules vibrations de l'espace-temps lui-même. Et vous voyez que c'est un niveau d'abstraction ultérieur, parce que l'espace-temps qui semblait chose un peu banale, là, disons, les choses intéressantes se passent dans l'espace-temps, c'est pas l'espace lui-même, eh bien non, devient un acteur, devient quelque chose de dynamique, devient même l'acteur qui fait des choses parmi les plus incroyables. Je m'arrête ici pour l'instant parce que je pourrais continuer à donner un cours de relativité générale. Mais donc, les ondes gravitationnelles, pour répondre à votre question, sont les vibrations de cet espace-temps qui est devenu un millier dynamique.
En physique, certaines découvertes bouleversent la vision qu'on a de l'univers, comme par exemple la découverte d'une exoplanète. Et en quoi est-ce que la découverte des ondes gravitationnelles a changé notre vision de l'univers?
Oui, c'est une très bonne question. Je dirais qu'il y a deux aspects. Le premier, bon, moi je vous ai dit qu'il y a cette onde, cette vibration dans le tapis, etc. C'est une conséquence des équations mathématiques de la relativité. On voit les équations qui prédisent certaines choses, mais ça ne veut pas encore dire que c'est vrai. Et finalement, on va vérifier expérimentalement. Et donc, c'était, on peut dire, la dernière pièce du puzzle de la relativité générale. La relativité générale, c'est une théorie très rigide, disons. Toutes les prédictions vont ensemble, on ne peut pas modifier facilement la théorie. Mais elle prédisait aussi ces effets. On ne l'avait pas encore trouvé, au moins pas de manière directe. Je peux revenir plus tard, il y avait des effets indirects qu'on avait observés. Et donc, d'abord, c'était extraordinaire de voir cette prédiction de la théorie, une prédiction d'ailleurs qui fait partie de ce genre de prédictions qui défie un peu notre intuition, notre imagination, vibration de l'espace-temps, c'est quoi? Sont bel et bien là, et de plus, la théorie prédit de manière très précise la forme de l'onde gravitationnelle, comment l'espace-temps va vibrer, on a vérifié tout cela de manière très précise. Donc ça c'est un premier aspect, c'est vraiment straordinaire, avoir une théorie tellement incroyable, tellement belle comme la relativité générale, voir wow, ça marche. Mais en plus, maintenant on est en train de passer all'étape suivante, dans le sens, souvent en physique on découvre une chose et après on l'utilise pour découvrir d'autres choses. Donc jusqu'au présent nous on a observé l'univers uniquement avec la radiation elettromagnétique. Bon, dire uniquement, c'est un peu réductif, c'est la lumière visible, c'est les rayons gamma, c'est l'infrarouge, c'est tout le spectre de la radiation elettromagnétique qu'on a utilisé pour esplorer l'univers et on a trouvé des choses formidables. Mais il faut dire que chaque fois qu'on a changé des fenêtres, on a découvert des choses totalement inattendues et totalement incroyables. Si vous regardiez le ciel aujourd'hui, dans les ondes radio, si nos yeux s'étaient faits pour les ondes radio plutôt que pour la lumière visible. En plein jour, vous ne verrez même pas le soleil. Le soleil serait une source minuscule de ce genre de radiation et tout ce que vous verrez, c'est le trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Il y a un trou noir de 2 millions de masses solaires au centre de notre galaxie qui émet une quantité straordinaire d'énergie, mais c'est tout de radiation elettromagnétique, mais principalement dans les ondes radio. Alors, notre ciel aujourd'hui est en plein jour, mais le soleil, vous le voyez, mais c'est peut-être là. Par contre, il y a ces choses immenses. Donc, vous voyez que dès qu'on change de fenêtre, on voit des choses totalement différentes qui vraiment révolutionnent notre compréhension de l'univers. Les ondes gravitationnelles, maintenant, on commence à les utiliser pour explorer l'univers. Et sera un messager de l'univers encore plus différent de ce qu'on connaît maintenant, parce qu'elles sont produites dans des événements extraordinaire, catastrophique, qu'on n'arrive pas à voir dans les radiations électromagnétiques. Donc on est déjà en train, et ça sera encore plus avec des expériences des prochaines générations comme l'Einstein Telescope, LISA, on est en train vraiment d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers où on va les regarder en ondes gravitationnelles.
Les ondes gravitationnelles détectées en 2016, elles provenaient de deux trous noirs. Est-ce qu'il existe une raison pour qu'on a réussi à détecter celle-ci? Ou c'était dû à un hasard?
Non, effectivement, c'était la source qu'on s'attendait de voir. Quand ces expériences ont été conçues, c'était déjà dans les années 80, on ne savait pas exactement qu'est-ce qu'on allait chercher. On avait en tête d'autres sources comme les explosions des supernovas, les pulsars, etc. Graduellement, avec la compréhension théorique qu'il y a eu dans ces décennies, on s'est rendu compte que c'était la source la plus probable. Le mécanisme est le suivant. D'abord, qu'est-ce que c'est un trou noir pour commencer? Un trou noir, c'est une solution, encore une fois, des équations de la relativité générale, qui a été découverte en tant que solution mathématique tout de suite après que Einstein avait écrit cette équation, c'était un jeune homme de nom Schwarzschild qui en 1918, si je ne me trompe pas, avait découvert cette solution. Et d'ailleurs, il est mort très jeune de la Première Guerre mondiale, le pauvre. Et on regarde cette solution et pendant quelques décennies, les gens ont dit bah, « c'est une solution très sympa, mathématique, des équations, mais évidemment, ce genre d'objet n'existe pas ». Pourquoi, évidemment? Parce que pour former un trou noir, il faut prendre de la matière, une certaine masse M, et la concentrer à l'intérieur d'un certain rayon très petit. Petit combien? Si vous prenez un objet de la masse de la Terre et vous voulez former un trou noir, il faut le concentrer dans 3 cm. Vous prenez un objet comme le Soleil, 3 km. Alors, d'ici à où on est, le Soleil, ou au centre-ville, c'est un peu difficile. Alors, les gens disent, ouais, c'est sympa cette solution, mais ouais, c'est clair, ça n'existe pas. Ensuite, dans les années 45, 50, les gens ont commencé à comprendre comment fonctionnaient les étoiles. Il y avait des réactions thermonucléaires à l'intérieur qui gardent l'étoile en vie pendant des milliards d'années. C'est un équilibre entre les réactions thermonucléaires qui génèrent une énorme pression et le poids de l'étoile, qui au fond c'est une boule de gaz qui tendrait à s'effondrer. Et on a compris que à un certain moment, ce combustible nucléaire se termine. Il y a une dynamique très compliquée, peut-être un'esplosione di un supernova, etc. Mais ce qui reste termine dans un collapse et peut devenir un objet, typiquement il y a 3 états finales, ou bien une N blanche, ou bien un état à neutrons, ou bien un trou noir. Donc on s'est rendu compte que ces objets peuvent exister. En effet, ils existent de manière inévitable. Ensuite, on a commencé à les trouver de manière un peu plus indirecte. Parce qu'on a commencé à découvrir des systèmes qui s'appellent X-ray binaries. Ce sont des systèmes avec un trou noir lié à une étoile normale. L'histoire, c'était qu'il y avait 2 étoiles normales, une finalement a terminé sa vie, a explosé, è devenu un trou noir. Le système est resté lié, et il y a une étoile normale qui tourne autour du trou noir. Et il absorbe la matière de son étoile, il mange, il cannibalise son voisin. Et cette matière qui tourne autour du trou noir, dès qu'elle passe une certaine distance limite, elle est disparue à toujours. Mais avant, elle hurle, elle met de la radiation rayon X très fort. Et on a détecté ces rayons X qui venaient d'une région tellement petite d'où il y avait quelques kilomètres et rien qu'on voyait. Alors, c'est évidemment, ça peut être qu'un trou noir. Donc, on connaissait quelques dizaines d'objets comme ça. À un certain moment, la théorie des ondes gravitationnelles nous a dit que ces systèmes où il y a une fusion de 2 trous noirs peut émettre une quantité fantastique d'énergie non gravitationnelle. Donc, une autre partie de l'histoire, c'est que alors, une étoile a explosé ed è devenue un trou noir, le système reste lié. L'autre étoile, à un certain moment, va aussi exploser et peut aussi devenir un trou noir. On peut avoir un système de 2 trous noirs liés. Ces 2 trous noirs orbitent l'un autour de l'autre. Et la théorie nous dit qu'il émet de la radiation gravitationnelle. C'est un peu dans l'électromagnétisme. Si vous avez des charges électriques qui tournent l'un autour de l'autre, il émet de la radiation électromagnétique. Et la même chose pour des masses qui tournent l'un autour de l'autre. Il émet de la radiation gravitationnelle. Cette radiation a une énergie. Donc, le système perd énergie. Donc, il doit payer de quelque manière pour l'énergie qu'il est en train d'émettre. Il le paye en se rapprochant. Parce que plus vous tournez autour de l'origine, plus l'énergie potentielle devient négative. Donc, vous pouvez baisser votre énergie pour compenser l'énergie que vous êtes en train d'émettre. Donc, finalement, il sistema va se rapprocher. Plus il se rapproche, plus il accélère. Plus il accélère, plus il émet de son gravitationnel. Alla fine, il y a un collapse, une fusion des trous noirs. Donc, le processus au début est très lent, ça peut durer des milioni, des centaines de milioni d'années. Mais la phase finale est explosive très vite. Et alors, pour vous donner une idée, dans une fusion comme celle che on venait de mentionner, la découverte des trous noirs, d'environ 30 et 30 masses solaires chacun, si je me rappelle exactement, 30 et 30, ils l'ont fusionné et formé un autre trou noir. On se dirait, bon, on imagine, le trou noir final aura 60 masses solaires. Eh bien non, 60. Qu'est-ce qui arrive des 2 masses solaires? Ils sont vaporisés à onde gravitationnelle. Alors, si vous pensez à E égale mc carré, ça c'est la fameuse formule d'Einstein, à une masse associée à une énergie, cette énergie est énorme, vous pensez que des petites particules de noyaux, etc., avec mc carré, arrive à fournir l'énergie nucléaire qui est énorme. Alors, vous imaginez pas des particules élémentaires, mais des objets de 30 masses solaires qui trasforment une partie de leur masse en énergie. Donc, il y a 2 masses solaires qui se sont vaporisées en onde gravitationnelle. Donc, comme si 2 soleils Dans quelques millisecondes, parce que la partie finale est quelques millisecondes, la masse correspondant à des soleils s'est vaporisée en ondes gravitationnelles dans quelques millisecondes. Si vous calculez l'énergie rayonnée par unité de temps dans ces quelques millisecondes, il s'avère qu'elle est plus grande que toute l'énergie émise avec les rayonnements électromagnétiques par toutes les étoiles et toutes les galaxies de l'univers observable. Bon, ça durait que quelques millisecondes, mais pendant ces quelques millisecondes, là, les physiciens l'appellent la luminosité, l'énergie par unité de temps, la puissance, si vous voulez, rayonnée, était plus que la puissance de tout l'univers. Donc, même si ces événements étaient très loin, et si les ondes gravitationnelles ont un effet minuscule sur les objets qu'on a utilisés pour les détecter, c'était un phénomène tellement catastrophique, tellement immense, qu'on a pu les détecter. Donc, on savait que les connaissances des trous noirs, aussi étoiles à neutrons, peuvent donner ces effets extraordinaires, on chassait surtout ce genre de signaux.
Est-ce que vous pensez que cette énergie, en fait, elle peut être exploitée? Genre, est-ce qu'on pourra un jour utiliser les...
On ne peut pas. La différence, c'est justement qu'il faut des événements d'une échelle incroyable. La même question, c'est pour la génération d'ondes gravitationnelles. On pourrait se dire, sur la Terre, on est capable de générer des ondes électromagnétiques, pas besoin d'attendre la radiation du Soleil. Donc, on génère des ondes électromagnétiques avec un appareil, avec des appareils normaux de notre technologie, et on les détecte. Pourquoi, pour vérifier la théorie d'Einstein, on n'a pas plutôt généré des ondes gravitationnelles? On prend une masse, on la fait tourner, ça doit générer des ondes gravitationnelles. Mais c'est, disons, 10 moins 60 plus petit de ce qui serait détectable. Il vous faut vraiment des choses immenses, comme des objets de 30 masses solaires qui fusionnent pour vous donner quelque chose de détectable. Donc, ce n'est pas une forme d'énergie exploitable comme on utilise la technologie.
Mais même sans les fabriquer, juste...
Non, parce que aussi la détection, pour détecter ces ondes, le principe, c'est qu'il y a un miroir, je simplifie beaucoup, mais il y a un laser, qui est le faisceau est divisé en deux, et ça va sur des miroirs à la fin, qui sont recombinés, et quand l'onde gravitationnelle arrive, un bras bouge un peu dans une direction, l'autre devient plus court, et on mesure cette différence de longueur, de chemin optique fait par le laser. Mais pour vous donner un'idée... Ah, c'est combien cette différence? Alors, c'est qu'on a vu, cette onde gravitationnelle est arrivée et ces miroirs ont bougé. Disons, il y avait des miroirs suspendus à distance de 3 km pour Virgo en Italie, 4 km pour LIGO aux États-Unis. Sur ces 4 km, vous immaginez combien un de ces miroirs s'est déplacé? C'est quoi la taille d'un atome? 8 cm, ou moins 10 mètres, s'il vous plaît. Eh bien, plus petit que ça. La taille d'un noyau atomique est 10^-13, c'est encore un facteur di puissance 5, plus petit qu'un atome. Donc, un miroir s'est déplacé d'une fraction, un millième de la taille d'un noyau atomique. Vous avez fait comment pour les détecter? On peut y revenir si ça vous intéresse. Mais ça déjà répond à la question pourquoi on ne peut pas utiliser ces choses. Parce qu'il faut un objet d'une complexité immense, il l'a mis 30 ans pour le construire, pour détecter une chose infime. Donc, ce n'est pas quelque chose de très maniable. On ne peut pas le mettre dans notre portable.
Donc, si j'ai bien compris, est-ce qu'on peut dire que tout ce qui se trouve dans ces tapis dont vous parliez tout à l'heure, dans l'espace-temps, est susceptible ou génère des ondes gravitationnelles, mais que nos limites de détection, nos limites technologiques font que vous ne pouvez détecter ces ondes que lorsqu'elles sont vraiment d'une intensité, d'une puissance...
Tout à fait juste. Disons, ils étaient dans une intensité incroyable au moment quand ils sont partis. Après, ils ont propagé pendant des distances immenses. Et c'était pas dans notre galaxie, c'était vraiment... Dans une galaxie comme la nôtre, un événement comme ça, ça passe une fois chaque, je sais pas, un million d'années. Donc, il faut attendre trop. Il faut arriver à des distances énormes parce qu'il y a quand même beaucoup de galaxies. Et donc, à des centaines de mégaparsecs. Des centaines de mégaparsecs, quand on a la sensibilité pour arriver à cette distance, on a la possibilité d'en voir quelques-unes par an, par exemple. Mais donc, évidemment, l'onde s'amortit parce que toute cette énergie va se répartir sur une sphère de cet rayon. Donc, ce qui arrive chez nous, un film. Disons, c'est une perturbation de l'espace-temps, ce qui arrive au niveau d'une part sur 10^-20. Par rapport au fait que, quand on dit que la distance entre des points, disons en trois dimensions cartésiennes, x carré plus y carré plus z carré. C'est comme si vous avez des 1 fois x carré, 1 fois y carré ou 1 plus z carré. c'est un qui devient un plus quelque chose. C'est la notion de distance qui change, mais devient un plus dix moins 21.
Est-ce que c'est facile, en quelques mots, d'expliquer quel est cet appareil magique qui est capable de détecter un déplacement aussi infime dans des miroirs?
Comme on disait, d'abord, je disais un déplacement d'une fraction de noyau atomique. La première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Le miroir n'est même pas défini à ce niveau de précision. C'est vrai, mais d'abord, le miroir est poli au niveau atomique. Et de plus, ce sont des miroirs de 40 kg. Et les faisceaux laser qui bougent entre les miroirs, ce n'est pas les lasers que moi j'utilise quand j'ai fait un séminaire. C'est une taille comme ça.
Michele montre une distance de quelques 20 cm.
Donc, il va moyenner sur une surface macroscopique du miroir. Donc, chaque atome en soi, même pour les bruits thermiques, vibre beaucoup plus de ce qu'on a détecté. Mais ce sont des mouvements random, casuals. Par contre, il y a tout un mouvement global, même si petit, amplifié par l'effet que tous les atomes bougent dans cette direction. Et donc ça, c'était d'abord un premier aspect. Ensuite, quand je vous ai dit que ça bouge dans la fraction des noyaux atomiques, j'ai un peu triché dans ce sens. Ce n'est pas un déplacement que vous regardez la coordonnée en fonction du temps. Vous faites ce que, je pense que vous ne connaissez pas encore, c'est la transformée de Fourier. Vous décomposez en fréquences ces mouvements. Chaque mouvement peut être décomposé en ses fréquences typiques. Et alors, il y a des mouvements lents. Un mouvement générique est une superposition de certains mouvements qui sont très lents, des mouvements très vite. Alors, la fréquence de l'onde gravitationnelle qu'on a détectée était de l'ordre de quelques centaines. La fréquence typique de ces signaux sont entre dizaines et centaines de Hz ou kilohertz. Ça veut dire 100 ou 1000 vibrations par seconde. Ça veut dire que ça va induire sur les miroirs pas un mouvement générique comme ça, mais une vibration à 1000 vibrations par seconde. Et les miroirs, c'est quand même 40 kg. Alors, faire vibrer un objet comme ça à cette fréquence, c'est compliqué. Parce que ça, il y a beaucoup de sources très intéressantes qui mettent des ondes à fréquences plus petites. Mais on ne peut pas les voir parce qu'un Hz, vibration de l'ordre de quelques vibrations par seconde, les poids lourds qui passent, la voiture qui passe dans la rue, fait des vibrations à ce genre de fréquences. Et à ce niveau, elles sont importantes. Déjà, parmi les autres choses magiques qu'on a fait, ces miroirs sont suspendus en série de pendules. Ils sont des atténuateurs de vibrations sismiques. Déjà, les bruits sismiques étaient déjà atténués d'un facteur 10 puissance 20. Donc, ils étaient hyper stables. Et même avec ça, on ne pouvait que regarder dans une région de fréquence, entre des centaines de Hz et des kilohertz. Et si on veut détecter des ondes à fréquences plus basses, qui sont aussi très intéressantes pour les trous noirs supermassifs, etc., il faut aller dans l'espace, et ça c'est Lisa, parce que là, il n'y a pas de bruits sismiques. Donc, il y a eu tous ces genres de défis technologiques incroyables. Ça veut dire, ces expériences sont des expériences qu'on appelle big science. Ce n'est plus le professeur avec ses trois doctorants qui si met là à bricoler l'AIGO, Virgo, une corporation d'environ 3000 personnes. Donc, avec des financements correspondants et 40 ans de travail pour arriver à résoudre tous ces problèmes techniques.
C'est juste, c'est l'acronyme de quoi, Lisa?
Laser Interferometer Space Antenna.
Okay.
Un interferomètre, parce que c'est une façon de séparer la lumière en deux et la recombiner, c'est ce qu'on appelle l'interferomètre. Le premier interferomètre qu'on étudie en physique, peut-être pas au niveau des collèges, c'est l'interferomètre di Michelson, qui était, vous l'avez fait en quatrième, che è così importante per la relatività, per verificare che non aveva l'etere, eccetera. C'est une façon très précise de mesurer des distances.
Merci beaucoup, Michele. Un autre de vos sujets de recherche concerne l'énergie noire. Et est-ce que nous pouvons vous demander, pour celles et ceux qui nous écoutent, de déjà avant peut-être d'aborder plus concrètement le sujet de l'énergie sombre, de nous donner la différence, parce que c'est parfois un peu confus dans le grand public, qui existe entre l'antimatière, la matière sombre et l'énergie sombre, ce sont des notions que souvent on confond, on mélange. Est-ce qu'on peut vous demander
bien. Alors, on commence par la partie la plus simple, c'est l'antimatière. Là, tout simplement, quand on a commencé à explorer l'univers des particules, on s'est rendu compte que pour chaque particule, il y a un jumeau, particule correspondante, avec les signes opposés de la charge électrique et d'autres propriétés. Disons, certaines particules sont aussi l'antiparticule d'elles-mêmes, donc, mais la plupart, donc il y a l'électron, c'est plus familière, et il y a une autre particule qu'on appelle le positron, qui est chargée positive, mais elle a la même masse, et sinon toutes les autres propriétés, comment il interagit avec les autres particules, etc., sont égales, sauf ces signes de la charge. Il y a les protons et il y a l'antiproton. Donc ça, c'est l'antimatière. C'est, pour chaque particule élémentaire, il y a son correspondant. Pour des raisons qui ne sont pas encore complètement claires, dans l'univers primordial, il y a eu une séparation telle que certaines de ces particules sont beaucoup plus abondantes que l'autre. Donc, les protons, on a plein, c'est notre univers. L'antiproton, il faut aller au CERN et le produire avec des collisions. L'électron, il y en a plein. L'antiélectron, le positron, c'est très rare. On a des pistes, des idées de pourquoi ça s'arrive, mais ça nous amènerait un peu là. Mais donc, l'antimatière, au fond, c'est de la matière normale. Matière noire et énergie noire, énergie sombre. Là, on rentre plutôt dans des choses qu'on ne comprend pas. Disons, sur Terre, entre, la matière normale explique presque la totalité de ce qu'on voit. Et si vous allez au CERN, vous trouvez aussi un peu d'antimatière. Il faut aller dans des endroits comme ça pour trouver des antiprotons. Dès que vous commencez à esplorer l'univers sur des échelles beaucoup plus grandes, galactiques, vous découvrez d'autres choses. D'abord, on s'est rendu compte qu'il y a de la matière, qu'elle est là parce qu'on la pèse. On sent son attraction, son effet gravitationnel, mais on ne la voit pas. On peut se dire, bon, tant pis, on ne peut pas voir tout, ce sont des choses très loin. Les planètes, vous avez parlé avec Didier des planètes. Bon, on commence à en voir quelques-unes de manière très indirecte, mais c'est difficile, n'est-ce pas? Mais vous pouvez calculer tout ce qui est difficile à voir dans ce sens, les étoiles trop faibles, les planètes, etc. C'est irrélevant par rapport à ce qu'on voit. Aujourd'hui, on sait que sur la densité totale de l'énergie de l'univers, environ le 5%, c'est la matière qu'on voit dans nos laboratoires sur Terre. 25% est fait d'une forme de matière, qu'elle est là, on la voit, on la pèse. On sent son effet gravitationnel, mais qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Alors on l'appelle matière noire. On le voit par plein de façons différentes qui donnent toujours un chiffre consistant sur la quantité d'énergie, de masse qu'il y a dans ces objets. Le premier, c'était Zwicky, qui était un astronome suisse dans les années 20-30, qui travaillait à Caltech. Et c'était rendu compte, on regardait un amas de galaxies, donc il y avait des galaxies qui tournaient l'un autour de l'autre, donc il y avait une force gravitationnelle, on peut comprendre quelle est la masse gravitationnelle là, parce qu'on voit le mouvement, c'est encore Kepler, si vous mesurez la vitesse d'un objet, vous savez la masse qui le fait tourner. Et il s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de masse nécessaire pour expliquer l'observation de ce qu'on pouvait voir avec les galaxies. Et après, l'évidence a commencé à s'accumuler avec plein de choses différentes, peut-être je ne vais pas vous faire la liste aujourd'hui, mais dell'échelle des galaxies à l'échelle de la cosmologie, qui est ancora beaucoup plus grande che l'échelle des galaxies, et avec la radiation cosmique des micro-ondes, toutes ces choses qui nous permettent vraiment de peser l'univers, même sur des échelles énormes. Et on s'est rendu compte qu'il y a cette matière noire. Alors, on dirait, ça c'est déjà un mystère énorme, 25%. Donc, 5 fois plus de ce qu'on voit est fait des choses qu'on ne voit pas. Qu'on connaît pas, on n'a pas la moindre idée de qu'est-ce que c'est. Ça peut être des particules, peut-être des particules qu'on pourrait essayer de produire au CERN. Et ça, il y a de bonnes raisons pour cela. Ou qui sait, des trous noirs primordiales, il y a plein d'autres idées. On ne sait même pas si c'est des particules ou des objets grands comme des trous noirs. Donc, là, c'est déjà quelque chose d'assez fascinant. Et on dirait, bon, ça suffit maintenant avec les mystères. Eh bien non, il y a un niveau supérieur qui est l'énergie noire. Parce qu'on s'est rendu compte che l'univers, sur une échelle enorme cosmologique, è dans une phase d'expansion accélérée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez entendu qu'il y a eu le Big Bang, donc on peut visualiser une phase d'explosion, imaginez la matière sur la surface d'un ballon qui est en espansion. Donc, ok, on est en espansion, on sait que l'univers est en expansion, on peut mesurer la constante de Hubble qui mesure l'expansion, etc. D'accord. Mais on se dirait, cette expansion doit être accélérée ou décélérée. Puisque la gravité est attractive, on s'imagine que l'expansion, d'accord, mais décélérée quand même. Ok, il y a eu, imaginez dégonfler ce ballon, vous avez commencé cette explosion, les galaxies s'éloignent, mais il y a une attraction entre les galaxies. Donc, il y a une résistance à cette expansion. Donc, l'expansion de l'univers devrait être décélérée. Et en effet, si on prend encore une fois les équations d'Einstein, de la relativité générale, et on met de la matière normale dans ces équations, il va produire une décélération. Alors, en 1999, environ deux groupes indépendamment, avec des mesures des supernovas, etc., se sont rendus compte que dans la phase récente de l'expansion de l'univers, récente sur les échelles quand même cosmologiques, l'univers a commencé à accélérer. Accélérer. Il n'y a pas de la matière normale qui fait ça. Il faut mettre dans les équations d'Einstein de la matière avec une pressione négative. Qu'est-ce que ça veut dire, pressione négative? Vous prenez une boîte et vous mettez là des particules, un gas. Che ce gas fa fait des particules que vous connaissez très bien, comme les atomes d'hydrogène, les protons, les électrons, l'antimatière des positrons ou la matière noire qu'on ne connaît pas, mais sont quand même des particules. Vous les mettez dans une boîte, il exerce une pression vers l'extérieur. Eh bien, cet objet dont on a besoin dans les équations pour expliquer l'expansion accélérée, si vous le mettez dans une boîte, ça va faire collapser la boîte. Exerce une pression négative sur les parois. Alors, c'est pour cela qu'on a inventé ancora un nom, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais ce n'est pas de la matière normale, même inconnue. La dark matter, la matière noire, ok, c'est déjà assez mystérieux, mais quand même c'est de la matière normale, de la pression positive. On espère de la comprendre avec des particules normales dans les prochains futurs, qui sait. Mais l'énergie noire, l'énergie sombre, c'est quelque chose d'encore différent. Alors, quand on ne comprend pas une chose, la première chose à faire, c'est on lui colle un nom, énergie noire, mais c'est une façon de dire, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais on sait par contre que ce n'est pas de la matière. Alors, ça peut être quelque fluide mystérieux avec une pression négative, mais plus probablement, ça c'est un de mes thèmes de recherche, ça semble comme ça parce qu'on utilise l'équation d'Einstein qui aurait besoin de ces termes de pression négative dans les équations. Mais peut-être que c'est les équations qui deviennent faux sur cette échelle énorme qui sont les échelles cosmologiques. Peut-être il faut, dans la relativité générale d'Einstein, c'est une théorie extraordinaire d'une grande beauté et qui marche avec une précision extraordinaire con la tête. Votre iPhone, quand il vous donne la localisation, marche grâce à la relativité générale. S'il ne mettait pas les corrections de relativité générale, dans une semaine, serait totalement déréglé. Donc, c'est une théorie qui marche magnifiquement, c'est pas en gros, oui, bon, ça va. Mais n'importe quelle théorie, aussi magnifique qu'elle soit, a des domaines de validité. Et peut-être, dès qu'on arrive à cette échelle immense de la cosmologie, peut-être sont les équations qu'il faut changer. Et donc, il nous semble qu'il faut mettre quelque chose de très bizarre, mais il faut vraiment modifier les équations. Ça, c'est un domaine de recherche qui s'appelle Modified Gravity, modification de la gravité sur l'échelle cosmologique. C'est aussi un de mes domaines de recherche.
C'était un peu ma question, du coup, elle a été un peu répondue. C'était comment est-ce qu'on a découvert la matière noire, l'existence de cette matière ? Et un peu la même question par rapport à l'énergie noire.
Oui. Alors, pour entrer un peu plus dans les détails, la première indication, c'est venu Zwicky, cet amas de galaxies ont reconstitué la matière qu'il devait y avoir, et ça manquait presque tout. Deuxième forte évidence, c'était les courbes de rotation des galaxies. Dans le sens, vous prenez une galaxie, la nôtre c'est un peu plus difficile à observer parce qu'on est caché, vous prenez une autre galaxie et vous suivez une étoile qui tourne autour du centre, toutes les étoiles, une galaxie spirale qui tourne autour du centre. Et donc vous prenez des étoiles à des distances différentes par rapport au centre, il tourne avec une certaine vitesse angulaire que vous pouvez mesurer. Et donc à des différentes distances, vous mesurez la vitesse de rotation. La vitesse de rotation dépend de la matière à l'intérieur. Et vous pouvez la comparer avec ce que vous voyez en termes d'étoiles visibles. Et vous trouvez che, ancora una volta, ça colle pas. Effectivement, se vous prenez une galaxie, certainement la galaxie, la partie de lumière visible, s'arrête. Et donc, par exemple, si vous avez la loi de Kepler, ω² c'est 1 sur R cube, quand vous êtes à une distance, donc, au début, disons, la fréquence augmente parce que vous prenez des rayons toujours plus grandes, augmente très vite la masse que vous englobez. Okay? Mais à un certain moment, vous avez englobé toute la masse de la galaxie que vous voyez et vous vous éloignez encore plus. La vitesse angulaire doit diminuer, selon la loi de Kepler. Et par contre, ça reste constante, comme s'il y a toujours de la matière à des distances 100 fois plus grandes que la taille de la galaxie visible. Donc ça, c'était les courbes de rotation des galaxies. Ensuite, on est allé à des échelles encore plus grandes avec cette radiation cosmique de fond, la CMB. Et c'est un peu la radiation du fond du Big Bang qui était découverte. Elle a une certaine température, c'est une radiation qui est partout. En première approximation, la température est la même dans toutes les directions. Et après, on a découvert qu'il y a des petites fluctuations au niveau de delta T sur T di moins 5. Et ces petites fluctuations nous donnent plein d'informations très importantes. Ici, ça serait un peu compliqué quand même de comprendre comment. Mais c'est toute l'expansion de l'univers et toutes les propriétés de l'univers qui rentrent pour faire calculer correctement la théorie de ces fluctuations. Et là encore, on se rend compte qu'on a besoin de la matière noire. Et toujours, vous trouvez la même quantité de matière noire dont vous avez besoin. Donc, il y a des évidences, des échelles de galaxies à l'échelle cosmologique. Quand j'ai dit échelle de galaxies, alors on disait les parsecs, c'est la distance typique entre deux étoiles. Les kiloparsecs, c'est la taille typique d'une galaxie, 1000 parsecs. Les mégaparsecs, c'est la distance typique entre les galaxies. Et les gigaparsecs, c'est l'échelle typique où la cosmologie rentre en jeu, pour vous donner un peu une idée des échelles en jeu. Donc, de l'échelle des kiloparsecs des galaxies jusqu'à l'échelle des gigaparsecs, on voit cette matière noire.
Alors, moi, j'ai encore une question. C'est quel est l'intérêt de mener des recherches sur une énergie sombre? Est-ce qu'il y a une utilité à cela?
Ça nous amène à une question très générale. Recherche pure vers recherche, je vais dire, appliquée vers disons, d'abord, la connaissance est intéressante en soi et c'est ce qui motive principalement quelqu'un comme moi qui a un profil vraiment de physique théorique, c'est cette recherche de la connaissance. Mais ensuite, c'est clair que toute la connaissance fondamentale qu'on a finalement se transforme, peut-être avec un certain retard, disons, dans notre technologie et dans notre richesse, si on veut, spécialement pour un pays comme la Suisse. Et une phrase assez intéressante de ce point de vue, c'est que quand Maxwell avait écrit ses équations de Maxwell, qui décrit l'électromagnétisme, quelqu'un lui a donné, mais ça sert à quoi cette chose? Et lui a répondu, bah, ça sert à quoi un bébé qui vient de naître? Maintenant, vous imaginez notre monde sans la technologie basée sull'électrodynamique, sull'électromagnétisme. Donc, beaucoup de ces choses qu'on découvre, parce qu'il y a des gens passionnés par la découverte, finalement se transforment dans notre vie de tous les jours. On a des exemples, bon, Max c'est un exemple assez classique, mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus récent, vous savez probablement tous que l'Internet a été découvert au CERN. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de manière de s'échanger des données parmi les laboratoires. Et regardez les résultats, disons. Je ne pense pas que la particule, si sarà un particule, chi sarà un neutralino che va a découvrir a CERN, lui en soi n'aura pas di grande applicazione. Ma tutti gli sforzi che abbiamo fatto per le découvrir, oui.
Vous voyez, dans un communiqué de presse de l'Université de Genève de 2017, les déclarations d'un chercheur de cette université qui remettait en question l'existence de l'énergie sombre ainsi que celle de la matière noire. Il affirmait qu'on peut expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers sans avoir recours à ces entités.
Oui, c'était André Méder, notre collègue, et très, très connu comme astronome. Disons, ça rentre dans ces directions de recherche. C'est dire, moi je l'ai mentionné pour l'énergie noire, mais on pourrait imaginer ça aussi pour la matière noire. Peut-être, c'est pas qu'on a besoin de ces choses, mais il faut modifier l'équation avec laquelle on interprète. Pour l'énergie noire, ça semble assez plausible. Je dirais que à mon avis, l'explication la plus... Bon, celle sur laquelle moi je pense, je parie, si vous voulez, c'est que ça sera plutôt des modifications de la relativité générale. Plutôt qu'un fluide avec pression négative, que ça ne veut pas dire grand-chose. Et pour la matière noire, c'est beaucoup plus difficile, je trouve. Il y a des personnes qui cherchent dans cette direction, c'est assez légitime de chercher dans toutes les directions, évidemment. Mais c'est très difficile d'expliquer tout cela de l'échelle des galaxies à l'échelle cosmologique. Et donc, je dirais que cette ligne de recherche, disons, c'est pas le mainstream, comme on dit en ce moment, les gens y croient pas trop. Mais évidemment, c'est légitime d'explorer beaucoup d'idées différentes, peut-être des choses sur lesquelles maintenant on pense que c'est pas la bonne direction, peut-être vont se révéler correctes, qui sait.
Super. J'ai encore une question, du coup, c'est... où est-ce qu'on en est dans la recherche sur la matière noire et est-ce qu'on a de quoi, est-ce qu'on a les moyens de travailler sur le sujet actuellement?
Oui, donc on peut la chercher de manière différente. Une hypothèse est que ce soit des particules, juste des particules qu'on ne connaît pas parce qu'il faut des énergies très grandes pour les produire. Et aujourd'hui, la physique des particules est très bien décrite par une théorie qui marche tellement bien qu'on l'appelle le modèle standard. Standard parce que ça marche parfaitement bien. Les physiciens des particules sont même un peu désespérés parce qu'on cherche toujours c'est plus intéressant de trouver des déviations, évidemment. On cherche toujours des déviations par rapport au modèle standard, on n'en trouve pas. Mais il y a des bonnes motivations théoriques pour avoir des modifications. Et certaines de ces modifications, des idées comme la supersymétrie et d'autres qui ont été proposées, proposent très naturellement l'existence d'autres particules qui marcherait de manière parfaite pour faire la matière noire. Parce que, vu le genre d'interaction qu'ils ont entré avec le reste de la matière, on peut calculer che dès qu'ils ont été produits dans les Big Bang, l'abondance qu'on aurait aujourd'hui est précisément la bonne. Donc, il y avait beaucoup d'espoir dans ce genre de particules, qui s'appellent particules supersymétriques, comme j'ai mentionné les neutralino, o d'autres, si ça termine en ino, c'est le partner supersymétrique de quelque chose typiquement. Et un début du CERN est de chercher ces particules. Disons, on ne les a pas trouvées jusqu'au présent. Disons, si la supersymétrie était là, on s'attendait quand même d'avoir des signes à l'énergie qu'on a obtenue à LHC. Donc, bon, on est un peu perplexe. Peut-être qu'ils sont une énergie encore plus grande, on ne s'est pas exclu. Et avoir d'autres modèles de particules. Donc, ce genre de particules, on peut les chercher au CERN, on peut les chercher dans des détecteurs sous Terre, où c'est des particules qui viennent de l'espace. Donc, on peut les chercher, ce sont des particules, on peut les chercher. Le problème de ce genre de particules seront des particules avec interaction très faible. Pas aussi faible comme l'interaction gravitationnelle, mais quand même très, très faible. Et c'est pour cela que c'est difficile de les trouver. Il y a d'autres pistes. Tous les trous noirs qu'on vient de trouver avec LIGO Virgo ont été créés vraiment par l'évolution stellaire. Il y a une autre possibilité, che sono dei trous noirs primordiali, créés dans l'univers primordial, parce que dans l'univers primordial, il y avait des fluctuations, c'était tout un soup avec une grande densité, des fluctuations de densité. Il peut y avoir, par-ci, par-là, par hasard, des fluctuations suffisamment grandes qu'on formait des trous noirs. On les appelle trous noirs primordiales. Et on explore beaucoup aujourd'hui l'idée que, au moins, certains des trous noirs qui ont été détectés par LIGO et Virgo pourraient être des trous noirs primordiales. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une région de masse où on ne s'attend pas, par l'évolution stellaire, d'avoir des trous noirs. Il y a une sorte de fenêtre entre 30 et 50 masses solaires, où l'évolution stellaire normale, une étoile de cette masse va exploser de manière différente, va pas donner ce genre de trous noirs. Alors, peut-être il y a d'autres manières de les former avec l'évolution stellaire ou avec d'abord trois étoiles, donc des trous noirs qui se sont formés, des étoiles qui ont formé un trou noir, et après un troisième qui passait par là et qui était capturé. Il y a d'autres mécanismes de production, mais une autre possibilité che che ça soit des trous noirs primordiales. Et donc, on explore aussi cette piste, et il serait aussi des candidats pour la matière noire, même si avec ce qu'on sait aujourd'hui, si sont partis de la matière noire, ce ne peuvent pas être probablement toute la matière noire. Mais peut-être une partie de la matière noire pourrait être... Donc, vous voyez, la conclusion, c'est qu'on vague totalement entre des toute petite minuscule particule qu'on pourrait chercher au CERN à des trous noirs de 30 masses solaires qu'on cherche avec LIGO Virgo pour comprendre qu'est-ce que c'est la matière noire. Et on est vraiment dans cette situation, au fond, très excitante, où on ne sait pas, et on cherche un peu dans des différentes hypothèses.
Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que l'énergie sombre peut donner des super-pouvoirs, comme dans les films hollywoodiens?
Je n'ai pas compris l'air.
Est-ce que l'énergie sombre est une donnée
non,
de super-pouvoirs?
Désolé. C'est encore moins utile que les ondes gravitationnelles, de ce point de vue. Parce que sa densité est telle que l'effet... on les voit seulement sur les échelles cosmologiques. Donc non, la réponse est non.
Pour finir avec une note musicale, pourriez-vous nous dire quel morceau de musique vous choisiriez pour danser? Lequel pour représenter le cosmos? Et quel est votre morceau préféré de tous les temps?
Ah, ça c'est très, très difficile. Alors, je peux partir avec morceau préféré tout le temps. Disons, la musique est tellement belle que choisir une chose est toujours arbitraire. Moi, j'aime beaucoup la musique classique, j'aime beaucoup jouer du piano. Si je dois dire une chose que déjà quand j'étais adolescent, j'aimais beaucoup. Et maintenant, j'essaie de la jouer avec mes modestes capacités parce que c'est trop difficile pour moi. C'est la Chaconne de Bach Busoni. C'est l'original de Bach pour violon, transcrit par Busoni, donc plus romantique, début du XXe siècle. Extraordinaire, j'essaie de la jouer, mais mon métier est le physicien, c'est pas le pianiste. Mais donc, il y a tous les sentiments qui rentrent en jeu dans ce morceau. Donc, si je dois choisir une chose aussi pour des raisons personnelles, mais si c'est dit, choisir une chose dans l'univers de la musique. C'est... Alors, musique pour décrire le cosmos. C'est encore moins unique, dans le sens, quel cosmos? Parce que, quand on disait au début que dès que vous regardez par une fenêtre différente, vous voyez des choses différentes. Alors, si vous regardez avec la lumière visible, Galileo avec son télescope, vous regardez un univers très paisible, des planètes qui tournent autour de leurs étoiles, ça semble très ordonné. Et c'était aussi la vision depuis Aristote, même s'il n'avait pas compris certaines choses. Alors là, qu'est-ce que je voulais mettre? Quelque chose de le baroque, Bach, ça va très bien, n'est-ce pas? Prenez les rayons X, l'univers en rayon X, et vous disiez que dans les radios, c'est le structure supermassive, dans les rayons X, c'est un univers très violent. Vous voyez vraiment un univers très violent, avec des trous noirs, des quasars qui émettent des énergies immenses, des explosions partout. Je ne vais pas mettre Bach là-dessus. Peut-être vous pouvez me suggérer quelque chose de un peu rap, je ne sais pas. Donc, c'est très difficile de trouver une musique pour l'univers. C'est quel univers?
Je vous conseille Mandragora pour écouter l'univers sous rayon X.
Ok, je vais
vérifier.
Demande, question encore plus difficile pour danser, moi. Alors, jouer, j'aime bien jouer. Danser, c'est un peu moins de pratique. Mais je dois dire que j'ai fait un cours de Saussure il y a 2 mois de tango. C'était très bien. Hein? Avec ma femme, on s'est amusé 3 fois. Donc, je ne peux pas vous danser du tango après 3 fois, mais c'était très sympa. Alors, je pourrais vous mettre du tango comme musique.
Bon, merci beaucoup, Michele Maggiore. Merci beaucoup d'être venu et de répondre à nos questions. On va finir comme ça. Et je ne sais pas si notre cher public, pendant ce temps-là, a des questions.
Super. C'était par rapport aux ondes gravitationnelles. Moi, ce que j'ai pensé, c'est que les ondes gravitationnelles, du coup, comme c'est des ondes, donc ça ferait comme une sinusoïdale, c'est comme ça que j'ai
imaginé
la chose. Et du coup, ça voudrait dire qu'il y aurait une portion de l'onde qui serait, comment dire, au-dessus, un petit peu comme une bosse dans le tapis élastique. Et du coup, est-ce que ça pourrait pas être la pression négative de l'énergie sombre?
Non, bonne tentative. Mais c'est tout à fait juste ce que vous dites. Donc, il y a une longueur d'onde, comme dans les ondes, et aussi une fréquence. Les deux sont liés. La fréquence, c'est justement ce dont j'ai parlé quand je disais que ces ondes ont une fréquence d'une centaine de Hz, typiquement. C'est le nombre de vibrations par unité de temps. Et ça est lié à leur longueur d'onde, qui dans ce cas est des dizaines, centaines de kilomètres. Donc ils ont cette longueur d'onde. Mais si vous pensez aussi à une onde électromagnétique, là c'est creux, etc., mais ça ne va pas vous donner une énergie négative. Si une onde électromagnétique arrive sur quelque chose, bon, elle a une densité d'énergie et c'est positif, cette densité d'énergie. Elle exerce une pression, mais tout cela, c'est normal, en guillemets, entre autres, quand après on va faire l'université, éventuellement apprendre la mécanique quantique, etc., on se rend compte que cette onde électromagnétique, on peut les interpréter comme une collection de particules, les photons. Et donc, c'est de la matière normale, c'est pas de la... ne peut pas donner ses effets de pression négative. Merci à vous, c'était vraiment un plaisir. Merci à votre professeur pour cette invitation et organiser tout cela.